Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria France, bonjour, quelle joie de vous retrouver comme à chaque fois. Le thème de la catéchèse du jour, nous allons parler de la résurrection de la chair, de notre chair, donc de nos bonnes têtes. Voilà. Confions cette catéchèse d'aujourd'hui à la Vierge Marie assomptée. Voilà. Qui est au ciel avec son âme et son corps. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous disons dans le credo « Je crois en la résurrection de la chair ». On croit que Jésus est ressuscité, ça c'est bon, c'est bien intégré je pense. Nous croyons en la résurrection de la chair, qu'est-ce que nous disons lorsque nous proclamons ce credo, cette profession de foi? Alors, je vais me baser sur le catéchisme de l'Église catholique et je vais expliciter ce grand et magnifique mystère de la résurrection de la chair. Nous croyons fermement et ainsi nous espérons que de même que le Christ est vraiment ressuscité des morts et qu'il vit pour toujours, de même, après leur mort, les justes vivront pour toujours avec le Christ ressuscité. Ça, on y croit. Les justes, ceux qui ont accueilli la miséricorde de Dieu dans leur vie, actuellement, ils vivent, s'ils sont au ciel, après peut-être un temps de purgatoire, ils sont au ciel avec le Christ ressuscité. Pour toujours. Et que ce Jésus ressuscité les ressuscitera au dernier jour. Comme la sienne, notre résurrection sera l'œuvre de la très sainte Trinité. Romains 8. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels. Par son esprit, qui habite en vous. Le terme chair, résurrection de la chair, C-H-A-I-R, désigne l'homme dans sa condition de faiblesse et de mortalité. La résurrection de la chair signifie qu'il n'y aura pas seulement après la mort la vie de l'âme, immortelle, mais que même nos corps mortels reprendront vie. Nos corps mortels, en raison du péché, rappelez-vous, la mort est entrée dans le monde par le péché. S'il n'y avait pas eu péché, on se serait endormi paisiblement, dans la grâce, sans l'avoir jamais quitté. Et puis on aurait changé d'état, on serait passé de cet état terrestre à l'état glorieux, sans passer par la mort. Là, il y a ce passage. Complètement visité, traversé par Jésus, mort et ressuscité. Croire en la résurrection des morts a été dès ses débuts un élément essentiel de la foi chrétienne, une conviction des chrétiens. Comment certains, nous dit saint Paul, comment certains d'entre vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Mais si le Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide. Vide aussi votre foi. C'est-à-dire que si vous croyez en la Trinité, si vous croyez que Dieu est créateur, si vous croyez que Dieu est bon, mais que Jésus n'est pas ressuscité, c'est pas assez. Vide est votre foi. Et si vous ne croyez pas en la résurrection de la chair, c'est-à-dire non seulement que Jésus est ressuscité d'entre les morts, mais que vous aussi, vous allez ressusciter, vide est votre foi. Mais non, le Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. Prémisse. 1 Corinthiens 15. Alors, comment les morts ressuscitent-ils? Qu'est-ce que ressusciter? Dans la mort, séparation de l'âme et du corps, le corps de l'homme tombe dans la corruption, alors que son âme va à la rencontre de Dieu, tout en demeurant en attente d'être réuni à son corps glorifié. Dieu, dans sa toute-puissance, rendra définitivement la vie incorruptible à nos corps en les unissant à nos âmes par la vertu de la résurrection de Jésus. Principe et source de notre propre résurrection, c'est Jésus ressuscité. Qui ressuscitera? Tous les hommes qui sont morts. Ah bon? Tous? Tous. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, nous dit saint Jean. Ceux qui auront fait le mal pour la damnation. Autrement dit, ceux qui sont déjà en enfer vont ressusciter. Ceux qui sont au ciel vont ressusciter. Ceux qui sont au purgatoire vont ressusciter. Tous, tous les hommes. Comment? Ah, comment, comment? Comment ça marche? Le Christ est ressuscité avec son propre corps. Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Mais il n'est pas revenu à une autre vie terrestre. De même, en lui, tous ressusciteront avec leur propre corps qu'ils ont maintenant. Concile du Latran, quand même. Latran 4. Le corps que j'ai maintenant, on va approfondir. C'est ce corps que j'ai maintenant qui va ressusciter. Non, parce que je vous entends. Certains disent « youpi youpi, on sera enfin débarrassé des kilos en trop, vous voyez ?» Ou de la maladie, du handicap. Bien sûr. Et on va revenir là-dessus. Tous ressusciteront avec leur propre corps qu'ils ont maintenant. On n'aura pas un autre corps. C'est mon corps à moi, et ce corps, c'est non seulement mon corps, mais c'est moi. C'est moi, ma personne. Une personne humaine, c'est quoi? C'est une âme et un corps unis substantiellement. On ne peut pas séparer ce que Dieu a uni. Le mystère de notre création, c'est d'être âme et corps unis substantiellement. De sorte que la mort, c'est cette séparation de l'âme et du corps, mais la mort est vaincue. La mort est vaincue par Jésus, mort et ressuscité. Jésus ressuscité est la preuve, entre guillemets, que ma mort est vaincue. La séparation de mon corps et de mon âme, que je vivrai à ma mort, eh bien, cette séparation, elle est vaincue. Parce que je vais retrouver, mon âme va retrouver mon corps, dans un état glorieux, différent de l'état dans lequel mon âme est unie à mon corps aujourd'hui, ici-bas sur terre. Ce corps sera transfiguré en corps de gloire, nous dit saint Paul en Philippiens 3, 21. En corps spirituel, nous dit ce même saint Paul en 1 Corinthiens 15, 44. Mais, dira-t-on, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? Insensé. Ce que tu sèmes, toi, ne reprend vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir, mais un grain tout nu. On sème de la corruption, il ressuscite dans l'incorruption. Les morts ressusciteront incorruptibles. Il faut en effet que cet être corruptible revête l'incorruptibilité et que cet être mortel revête l'immortalité. Ce comment dépasse notre imagination, on n'est pas dans un film de science-fiction, et notre entendement. Il n'est accessible que par la foi. Mais notre participation à l'Eucharistie nous donne déjà un avant-goût de la transfiguration de notre corps par le Christ. Je suis très heureux que le catéchisme fasse le lien, bien sûr, entre la résurrection et l'Eucharistie. Parce que c'est Jésus lui-même qui en a parlé. Dans l'Évangile selon saint Jean. Celui qui me mange, je le ressusciterai. De même que le pain qui vient de la terre après avoir reçu l'invocation de Dieu n'est plus du pain ordinaire, nous dit saint Irénée, mais Eucharistie, constitué de deux choses, l'une terrestre et l'autre céleste, de même nos corps qui participent à l'Eucharistie ne sont plus corruptibles, puisqu'ils ont l'espérance de la résurrection. Alors, quand? Au dernier jour. Quand est-ce que ça va arriver? On n'en sait rien. Mais ça arrivera. Nous croyons en la résurrection de la chair qui est objet de foi. Donc c'est une certitude divinement révélée sur l'autorité de Dieu, de sa parole. Et nous adhérons avec un acte de foi à cette réalité. Donc c'est sûr, c'est vrai. Et c'est aussi objet d'espérance dans le sens où nous espérons, comme tous ressusciteront, nous espérons être de ceux qui ressusciteront pour la gloire de Dieu et ne pas être de ceux qui ressusciteront pour la damnation. Ça, c'est objet d'espérance. L'espérance qui est un don théologal qui nous fait nous appuyer sur la toute-puissance de la miséricorde de Dieu. Alors, comment cette résurrection de la chair, qui est une certitude future, comment intégrer cette vérité de foi dans mon quotidien aujourd'hui? Alors, là, c'est super intéressant parce que on entre dans la vie, dans notre vie chrétienne, dans le cœur de notre vie chrétienne. C'est-à-dire, la vie chrétienne, c'est quoi? C'est la vie du Christ en nous. Enseveli avec le Christ lors du baptême. Vous en êtes aussi ressuscité avec lui? Parce que vous avez cru en la force de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Du moment donc que vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. Nous pouvons aujourd'hui vivre en régime de résurrection. Je vous explique. Vous le savez, il y a le vieil homme. Vous le connaissez un peu? Vous avez peut-être oublié qui c'était parce qu'il est vaincu à la croix. Bon. Il y a le vieil homme, rempli de ses convoitises. Celui-là, il est défait. Mais il gigote encore un peu. Bon. Et puis, il y a l'être nouveau, celui que le Seigneur non seulement... Celui que le Seigneur a restauré par sa mort et sa résurrection. L'homme nouveau, la femme nouvelle, restaurée dans la grâce, pouvant vivre désormais de la divine volonté. Ça, c'est né à la croix, c'est né à la résurrection. Nous sommes les enfants de la résurrection. Alors, ma journée d'aujourd'hui, Je la vis dans ma foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré pour moi. Je peux vivre aujourd'hui, dans la journée d'aujourd'hui, à partir de mon lien avec Jésus ressuscité qui m'aime pour toujours et qui est là avec moi et qui m'emmène à sa suite. Ou je peux dire, ah ben Jésus ressuscité c'est bien gentil, mais il est tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut, et puis moi je suis tout en bas, tout en bas, tout en bas, et je fais ce que je peux. Non. La merveille de la foi, c'est que le Christ habite en nos cœurs par la foi. Je peux rejoindre par un acte de foi le Christ ressuscité qui habite au plus haut des cieux dans mon cœur. Et je peux lui dire, c'est ce que nous vivons bien sûr sur Radio Maria France tous les matins, par les prières du matin, lorsque nous démarrons nos journées, nous nous mettons en prière, nous émergeons du marasme nocturne, et dès le réveil, on essaye de s'éveiller à la présence de Dieu qui nous aime, qui nous aime, qui nous regarde, qui nous bénit. Et dès le matin, mon cœur m'avertit et nous nous mettons en présence du Seigneur et nous nous donnons à lui. Nous l'adorons, nous le bénissons et nous lui remettons toute notre journée, nos rencontres, chaque instant de la journée et nos personnes. Et lorsque nous parlons d'une personne, encore une fois, une personne humaine, c'est corps et âme avec tout ce qu'on vit, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on fait, tout, tout. Alors, nous pouvons demander au Seigneur, chaque matin et tout au long d'une journée, une journée pascale, car désormais nous sommes les fils et les filles de la résurrection, dire « Seigneur, moi ce que je veux vivre aujourd'hui, c'est dans ta divine volonté, je veux vivre dans ta grâce, je veux vivre uni à toi, je veux que tout ce que je suis, tout ce que je fais, soit vécu en ton nom, en communion avec toi, pour que ce soit toi, Jésus ressuscité, qui vienne vivre, aimer, penser en moi, avec moi, pour que nous vivions ensemble, en communion profonde, en union profonde. On ne va pas attendre demain, après-demain, après-après-demain, après avoir franchi 15 000 étapes pour s'unir au Seigneur. Non, c'est tout de suite, c'est maintenant. On ne va pas attendre 15 000 jours, 15 000 journées pour donner notre volonté, unir notre volonté humaine à celle de Dieu. Non, non, pourquoi attendre ? On ne va pas attendre pour aimer le Seigneur, on ne va pas attendre d'être parfait pour aimer le Seigneur et pour accueillir son amour. C'est une grave erreur. C'est aujourd'hui et c'est tout de suite. Comme je suis. Alors, Seigneur, aujourd'hui nous voulons te demander de t'emparer de notre personne pour nous faire expérimenter la puissance de ta résurrection. Vous voulez bien ? Je vais prendre des exemples. Nos pensées. Depuis tout à l'heure, vous avez pensé à plein de trucs. Ah, ça a tourné dans vos têtes. Hein. Ouh ! Bon, est-ce qu'elles étaient en adéquation avec Jésus ressuscité ? Hein ? Est-ce que c'était en adéquation avec... comment pense Jésus ressuscité ? On n'en sait rien comment il pense, lui. Sauf que saint Paul dira, nous avons la pensée du Christ. Ah bon ? Il a fait beaucoup d'études pour faire ça ? Non. Il a cru. Il s'est emparé de la résurrection. Saint Paul. Il s'est emparé de Jésus ressuscité. Il a dit « Moi, les pensées du Christ, ça m'intéresse, je les prends. » Mais parce que mes pensées, c'est sûr, hein, le vieil homme, il a les pensées tordues. Ah oui, il pense tordu, il pense à partir de ses peurs, il pense à partir de plein de trucs, de ses manques et de toutes sortes de trucs. Bon, Jésus, mes pensées, je te les donne, je les dépose à tes pieds, et je m'empare de tes pensées à toi. Toi, Jésus, ressuscité dans la chair, vivifié dans l'esprit, j'ose recevoir et m'emparer de tes pensées à toi. Pas pour que je pense simplement juste dans mon quotidien. Si, si, ça va penser juste, hein, c'est sûr, parce que le Seigneur n'est pas désincarné, le Seigneur n'est pas déconnecté de mon quotidien. Tout l'intéresse dans ma vie, tous les détails. Mais pour que je me mette à penser en régime de ciel ici-bas. Mais ma pensée, c'est un acte de mon intelligence, c'est mon intelligence, oui. Et puis mon intelligence, elle fait plein de choses, mon intelligence. Elle recherche la vérité, elle discerne, elle regarde ce qui est vrai, ce qui est faux. Tout ce que vit mon intelligence, tout doit être désormais, tout est invité à vivre en régime de résurrection. Jésus, il pense vrai tout le temps. Il pense droit tout le temps. L'intelligence de Jésus, c'est sublime. Eh bien, emparons-nous de l'intelligence de Jésus. L'intelligence humaine. L'intelligence divine. Oui, c'est pour nous. Pourquoi rester à côté? Si Dieu se donne, il se donne tout entier. Moi, je prends tout. Prenez et mangez. Alors, vous comprenez que si, aujourd'hui, on dit « Ok, Seigneur, moi je suis d'accord, je vais m'atteler à ce que je pense comme toi. » Ben, je vous garantis que vous allez faire l'expérience de Jésus ressuscité qui gagne du territoire en vous et que déjà vous allez repérer quand vous avez les pensées tordues. Vous allez dire, oula, tiens, c'est tordu ça, c'est pas terrible, ah ben, c'est pas conforme, c'est pas adéquat, c'est pas en communion, Jésus c'est sûr il pense pas comme ça. Avant, peut-être vous le voyez pas parce que, voilà, pourquoi? Parce que tout simplement vous n'avez pas pris Jésus ressuscité en vous et ses pensées. Bon, une fois que vous prenez ça, ça va faire le clair déjà. Jésus va nous montrer, tu vois, ça, c'est tu penses pas droit, tu penses pas juste, tu penses trop petit, trop étroit, ou non, c'est pas ça. Du coup, vous allez voir, ça va être génial. Et puis, ça va vous donner le goût de continuer. Parce que vivre avec Jésus ressuscité qui pense bien tout le temps, c'est quand même sympa. Alors, bien sûr, on est pécheur, on tombe, on se relève. On dit « Oula !» Et puis « Merci Seigneur pour ta miséricorde » et on repart, et on redémarre. Les pensées, c'est très important, parce que bien sûr, comme disaient comme disent aussi d'ailleurs les moines aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui proviennent de ce qu'on pense. Notre agir, notre manière de regarder, par exemple. Les regards. Prenez et mangez. Je fais toujours le lien avec l'Eucharistie en arrière-fond. Lorsqu'on communie à Jésus, à la messe par exemple, c'est son corps ressuscité. Communier vraiment à Jésus ressuscité, c'est communier à tout Jésus ressuscité. Donc, par exemple, ses regards. Comment Jésus regarde? Alors là, pareil. En prenant les regards de Jésus, pour de vrai, dire « Ok Seigneur, moi je te donne ma manière de regarder les choses, les gens, les situations, la télé, tout ça, tous ces trucs. Je te donne ça. Je dépose à tes pieds. Et je reçois tes regards. Je peux vous garantir que là, pareil, quand vous allez regarder pas bien, pas selon Jésus, ça va vous sauter aux yeux, c'est le cas de le dire. Vous allez repérer, ah ben tiens, là je regarde pas bien. Je peux vous regarder, il y a une caméra en face de moi, et puis dans le réel, je peux regarder avec séduction, en attirant à moi. Je peux regarder, surtout qu'on est bien masqué en ce moment, donc c'est les yeux qui bougent beaucoup là. On n'a que les yeux pour exprimer quelque chose. Bon. Donc on peut sourire, personne ne voit, on peut faire la moue, personne ne voit sous nos masques, mais les yeux disent quelque chose, encore. On n'est pas complètement mort. Nos yeux, nos regards. Et puis, voir et regarder, c'est deux choses différentes, parce qu'il y en a qui ne voient pas, ils sont aveugles. C'est l'organe de l'œil qui fonctionne pas. Bon. Mais ils ont un regard. Les personnes aveugles regardent. C'est la différence entre le sens de la vue et le regard. Les vaches voient, mais n'ont pas de regard. Parce que le regard humain, c'est quelque chose de très spécifique. C'est lié à l'esprit. Les personnes aveugles, eh ben, leur organe, même si ça ne fonctionne pas, eh bien, elles ont un esprit et elles regardent. Un regard intérieur. Elles ne voient peut-être pas comme ma grand-mère qui était aveugle et qui ne m'a jamais vu. Ça ne l'a pas empêché de me prendre sur ses genoux et de me raconter des histoires. Elle me regardait bel et bien. Et elle voyait des choses que les yeux ne peuvent pas voir avec le sens de la vue, mais elle accédait à une connaissance. Quand même. Dans l'évangile, c'est peuplé, c'est magnifique. Par exemple, il y a ce passage que j'aime beaucoup. Ils sont en train de marcher, ils marchaient souvent. Et puis, ben, il y avait des lys, des champs. Et puis, ben, ils étaient là en train de marcher, suivre Jésus. Je ne sais pas de quoi ils parlaient. Et puis, ben, il y a Jésus qui s'arrête et qui dit, vous avez vu les lys des champs? Vous avez vu? Ben, ils ont vu. Mon père les habille. Mon père habille les lys des champs. C'est mon père qui fait ça. Et alors ça, ils n'avaient pas vu, vous voyez? C'est la différence entre la vue et le regard. Le regard que Jésus pose sur le lys des champs n'est pas du tout le regard que les disciples posaient sur les lys des champs. Eux, ils avaient vu des lys, bon, très bien. Mais ils n'avaient pas vu que c'était le Père qui habillait. Ça, c'est le regard. Et lorsque nous disons à Jésus, « Mais Jésus, non seulement je te donne mes yeux, bien sûr, mais je te donne mon regard. Apprends-moi à regarder les choses comme tu les regardes, toi. » Vous comprenez tout de suite le lien entre l'intelligence et le regard. Parce que c'est le discernement, c'est le don de sagesse, c'est très lié à l'intelligence, les yeux. Jésus, apprends-nous à regarder comme tu regardes. Et puis, comme ça, on verra les merveilles de Dieu. Bon, comment regardes-tu ce qui se passe dans le monde? Parce que tu vois des choses. Mais à travers ce que tu vois, comment tu regardes? C'est toute l'interprétation, l'herméneutique. Comment tu interprètes un petit peu ce qui se passe? Comment tu discernes? Est-ce que tu discernes les signes des temps ou tu vois rien, ou on dit, ben, il voit rien, c'est-à-dire il comprend pas grand-chose. Ah oui, lui, il voit clair, on dit. C'est-à-dire, il comprend. Ben, comprendre, c'est l'intelligence. Le regard. Jésus, on veut vraiment regarder comme toi. Et là, on verra Dieu à l'œuvre. Parce que si nous n'avons pas le regard du Christ ressuscité en nous, eh bien, on ne va pas beaucoup voir l'œuvre de Dieu. On ne va pas voir que les lys des champs sont habillés par le Père. On va voir que des lys. Et puis, si on a des pensées, encore une fois, qui nous viennent de nos manques et de ce qui ne va pas, on va dire, ben, ça ne pousse pas bien, c'est pas assez bien habillé, c'est joli, mais il y a trop de pluie, c'est joli, mais c'est la sécheresse, c'est joli, mais, et puis on verra tout le temps ce qui ne va pas bien. regarder avec Jésus les choses, c'est vraiment voir l'empreinte du Père sur toute chose, sur toute la création, sur la pluie, sur bien sûr nous-mêmes, et sur nos frères et sœurs, sur les événements. C'est très important que Jésus vienne nous convertir de notre regard. Jésus ressuscité, c'est-à-dire vainqueur du péché de la mort. Vainqueur. Paisible, la paix soit avec vous. Regarde, regarde paisiblement les choses. Même il y a des choses qui s'effondrent. Oui, regarde. Comment lis-tu, disait Jésus à un scribe dans l'écriture. Comment lis-tu? C'est-à-dire, tu sais lire? Bon, tu sais lire. Mais comment lis-tu? C'est-à-dire, comment tu interprètes? Comment tu rentres dans la réalité? Intus legere, regarder du dedans. Seigneur, lorsque nous nous unissons à toi, nous voulons te donner nos regards pour que, te donnant nos regards, nous prenions les tiens en nous pour que nous communions à tes regards. Ah, frères et sœurs, nos paroles, notre langue et nos paroles. Oula, oulala. Tu es la parole de Dieu faite chair, ressuscitée. On parle si mal. Ah, c'est pas bien parlé, hein. Parce que nous parlons souvent à partir, là encore, de nos constats d'en bas. Nous parlons encore si peu à partir de la foi. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, dit saint Paul. Grand, grand domaine de conversion. J'ai pas le temps de développer, mais peut-être on pourra y revenir. C'est très important. Et nous serons même jugés sur nos paroles, dit dans l'Évangile selon saint Marc. Notre langue, saint Jacques en parle beaucoup. Jésus vient nous faire communier à ta manière de parler. Comment toi tu as usé de ta langue? Ça inclut le silence, ça inclut la discrétion, ça inclut la chasteté de nos paroles, ça inclut l'absence de vulgarité, ça inclut plein de choses. Nos paroles. Bon, Jésus, toi la parole faite chair, ressuscitée, viens ressusciter en nous tout ce qui a trait à nos paroles, à notre langue, à nos cœurs, bien sûr, Jésus, nos mains, c'est-à-dire notre agir, nos pieds, nos démarches, tout ce qu'on fait, nos sens. Nos cinq sens en particulier, nos cinq sens externes. L'ouïe. Alors, écouter Radio Maria, c'est très bien. Écouter des propagandes, des mensonges, en boucle, c'est peut-être moins bien, vous voyez, pour notre âme. Est-ce que quand on écoute des mensonges, on est en régime de résurrection de la chair? Ben non. Notre oui, notre manière d'écouter, ce qu'on écoute, le contenu, et puis notre manière d'écouter. Quand quelqu'un nous dit des choses médisantes sur quelqu'un, calomnie, etc., des trucs sur les gens, comment est-ce qu'on entre dedans? Comment est-ce qu'on accueille ces paroles? Ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on en fait? Ah Seigneur, s'il te plaît, viens nous immerger dans ta résurrection, dans tout le domaine de l'oui. De ce qu'on entend. On donne encore trop d'ouverture, par exemple aux paroles de malédiction. On est dans un climat de délation. Attention. Le goût, la saveur, ce qu'on goûte. Lorsque nous communions au cœur du Christ à l'Eucharistie, C'est le festin des noces de l'agneau. Goûter, se nourrir des bonnes choses du ciel. La saveur de la parole de Dieu, de la volonté du Père, de l'Eucharistie, le goût du ciel, le goût du royaume de Dieu. Nous sommes faits pour goûter ces choses dès ici-bas. Et plus nous goûtons les choses du ciel, plus ce que nous offre le monde a un goût berk. Ça ne nous empêchera pas d'aller au restaurant, j'espère bientôt. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Le toucher. Seigneur, viens convertir notre toucher pour que tout ce que nous touchions soit marqué de ta résurrection, de ce monde nouveau. La vue, j'en ai parlé, l'odorat. Nos sens internes, bon, la cogitative, et puis l'imagination. L'imagination, ouh, la folle du logis. C'est très bien l'imagination, hein, lorsqu'elle est bien utilisée, je pense à quelques œuvres d'art, pas toutes, pas toutes. Ce qu'on imagine, le poids de l'image dans notre vie. Jésus vient vraiment convertir et marquer de l'empreinte de ta résurrection notre imagination. C'est très important. Et notre mémoire. Esprit Saint vient vraiment visiter notre mémoire parce que pour nous apprendre à faire mémoire davantage, c'est-à-dire à nous rendre présents. Faire mémoire, c'est justement actualiser l'agir de Dieu. Nous, on va dans le souvenir, dans la nostalgie ou la mélancolie qui, je suis désolé, frères et sœurs, n'ont plus lieu d'être en régime de résurrection. Vraiment. Si nous sommes ressuscités avec le Christ, il n'y a plus de place pour la nostalgie et la mélancolie. La nostalgie et la mélancolie, c'est la caricature de ce que l'Esprit Saint veut faire en nous. Et à travers notre mémoire, faites ceci en mémoire de moi. Alors souviens-toi, Seigneur, souviens-toi de ta création, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse, de tout ce que tu as fait pour nous. Et puis, s'il te plaît, fort de ce mémorial de l'agir de Dieu en nous, voilà, viens transformer ces espèces de pain et de vin en ton corps et ton sang. C'est se servir du passé pour se rendre présent à celui qui est présent. C'est une vraie conversion. Notre rapport au temps, la résurrection nous marque, vient nous convertir dans notre rapport au temps. Et si nous ne prenons pas le train pascal, le train de la résurrection, on peut rester à quai en étant dans la nostalgie et la mélancolie. Ceux qui sont en Jésus ressuscité, normalement, il n'y a plus de place pour ça. Parce qu'aussi la miséricorde est passée par là et a tout emporté. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.